Bonsoir mes frères et sœurs. Nous avons, les dernières fois où nous avons pu partager la parole de Dieu ensemble, pris un texte qui est la conclusion de toute une série d'exhortations, c'est dans l'épître de Pierre, pour ceux qui n'étaient pas là peut-être. Nous avions vu qu'il y a toute une série d'exhortations et ces exhortations se terminent avec cette conclusion. Donc, 1 Pierre chapitre 3, la fin du verset 7, il y a tout un tas de propos par rapport à la vie en société, par rapport à la vie professionnelle, par rapport à la vie familiale, par rapport à la vie conjugale, etc. Et spirituelle, bien entendu. Et 1 Pierre donc 3, 7, la fin du verset dit ceci, « Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Donc nous continuerons dimanche prochain donc sur cette affaire. Qu'est-ce que tout ce qui peut faire obstacle à la prière? Beaucoup de chrétiens sont incapables. Parce qu'ils ne lisent pas, ils chantent des cantiques, ils chantent « Te connaître Jésus », mais ce n'est pas vrai. Ils chantent, c'est des beaux cantiques avec de très belles mélodies, mais ce n'est pas vrai. Parce que la Bible dit que ceux qui connaissent son nom, qu'est-ce qu'il est dit? Ceux qui connaissent son nom se confient en lui. Quand vous le connaissez, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous confier en lui. Donc, ce qui est important, qu'il en soit ainsi. Alors, par exemple, j'ai pris ce texte, j'étais dans une église de Vieille Lumière avant-hier, et j'ai pris ce texte, par exemple, quand il dit « Malheur à l'homme qui augmente le fardeau de ses dettes ». Il y a des chrétiens, ils ont des dettes envers d'autres chrétiens, parce qu'ils ont de l'argent. Ah, il a du fric, lui. C'est pas grave, c'est un chrétien. Et il ne rembourse pas. Vous voyez, c'est archi pratique. On fera ces choses. Pourquoi ? Mais parce que la Bible dit « Malheur à l'homme qui augmente le fardeau de ses dettes ». Vous voyez, les gens ne lisent pas la Bible. Alors, une des premières exhortations pour que nos prières soient exaucées, eh bien, elle est dans la première épître, au chapitre 1er, et au verset 13. On en verra une dizaine, on les fera courtement, 2-3 minutes chacune, mais dimanche, je voudrais absolument que vous puissiez prier pour que les chrétiens qui sont malheureux, qui ne sont pas dans la bénédiction parce que leurs prières ne sont pas exaucées. Ça fait mal au cœur de voir beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas, ils ne lisent pas la parole, ils ne méditent pas la parole, ils n'écoutent pas lorsqu'un pasteur prêche, et ça fait qu'ils écoutent, ils veulent la bénédiction, mais ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Donc, 1 Pierre chapitre 1er, verset 13, c'est pourquoi, c'est le départ. « Saignez les reins de votre entendement », voilà, ça a à voir avec l'important d'écouter, d'aimer la vérité, de ceindre cette chose, de serrer la vérité dans son cœur. Soyez sobre, on en parlera certainement dimanche, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La sobriété, ça se voit par exemple dans les paroles. On voit si quelqu'un est sobre par ses paroles. L'espérance, c'est quelque chose d'intérieur. On a chanté tout à l'heure que nous voulons porter l'espérance. Nous voulons porter l'espérance auprès de ceux qui ne l'ont pas. Mais pour la porter, l'espérance, il faut l'avoir. Il ne faut pas l'espérer, l'espérance. Il faut vraiment l'avoir dans son cœur. Et je voudrais ce soir qu'on puisse partager quelques textes. On n'aura pas le temps de tout voir, mais ça ne fait rien. Dans le psaume 90, par exemple, il y a un verset. C'est le seul psaume de Moïse dans la Bible. Mais dans le livre des psaumes, puisqu'il y en a un dans le livre de l'Exode. Psaume 90, verset 1er, regardez ce seul premier verset, mais notez-les les textes, notez-les mes frères et sœurs, afin que chez vous, vous puissiez les méditer. Prière de Moïse, homme de Dieu, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Est-ce que Dieu est vraiment votre refuge ?» Dans le psaume 18, gardez la page, hein. Dans le psaume 18, c'est écrit ailleurs dans 2 Samuel 22, si je ne me trompe pas, mais dans le psaume 18, David, on vient de parler de Moïse, mais David, il a fait une expérience, il a vraiment crié à Dieu, il a fait une expérience, il a été délivré, parce qu'il y a des expressions, il faut que ça soit le résultat d'expérience également. Il a été délivré, et qu'est-ce qu'il écrit, psaume 18, verset 2, « Je t'aime, ô Éternel ». Ma force éternelle, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et ces textes-là, on pourrait les multiplier. On va quand même lire le psaume 91. volontairement, j'ai fait 90, 18, et le psaume 80. Regardez ce psaume. Est-ce que ce soir, on va sortir en vivant la même chose? Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on écoute, pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Dieu veut qu'on écoute pour que l'on mette en pratique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Celui qui écoute sera un homme prudent, celui qui met en pratique. Écouter la parole de Dieu ne fera pas que nous construirons sur le roc. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique prouvera que nous construisons notre maison sur le roc. Mais écouter, même avec cœur, même écouter avec sérieux, même écouter avec, en étant d'accord, ça ne suffit pas. La parole de Dieu devient vraiment véritable lorsqu'elle est mise en pratique. D'ailleurs, Jésus le dit souvent, mettez en pratique la parole. On lit ce psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Oui, la détresse, elle existe. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Amen. Et des textes comme ça, il y en a plein dans la parole. Pourquoi? Parce que c'est un commandement. Ayez une entière espérance. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est rempli d'espérance. Pas qui espère que c'est peut-être vrai. Ça, c'est pas l'espérance, ça, c'est le désespoir. Si vous espérez que c'est peut-être vrai, ça n'a rien à voir avec l'espérance, ça. Ça, c'est la folie. L'espérance, c'est quelque chose sur laquelle on devrait absolument veiller. Paul a dit aux Corinthiens, il y a trois choses qui doivent demeurer. Et il faut absolument qu'elles demeurent. C'est quoi? La foi, l'espérance et l'amour. Ces trois vertus, on devrait en faire une fixation. Il est hors de question que je perde ces choses. Des fois, on peut perdre certains trucs, c'est pas méchant. Mais il y a des vertus absolument indispensables pour rendre un bon témoignage. Quand même. Vous n'êtes pas malheureux quand vous entendez qu'un chrétien a eu un comportement scandaleux? Qu'est-ce qu'il est dit des gens qui sont scandaleux, tiens, justement? Oui, mais malheur à l'homme. Voilà. Je scandale. Par exemple, imagine, je suis chrétien, je suis violent. Violent avec ma femme, avec mes enfants, violent physiquement, violent verbalement. Est-ce que ça ne scandalise pas mes enfants, ça? Oui ou non? Il n'est pas dit béni soit l'homme qui ne fait pas attention lorsqu'il scandalise sa femme. Il est dit malheur à l'homme. Et moi, je vous dis, mes frères et sœurs, que si on était super sérieux, on s'appliquerait à vraiment veiller sur certaines choses, parce que c'est des choses, franchement, vous rendez compte ce qu'on vient de lire, le peu que l'on vient de lire, mais c'est extraordinaire. Tu as été pour moi un refuge toute ma vie. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, etc. Le corps, parlons du corps d'abord, on va parler de l'âme, parce que l'essentiel, c'est l'âme. Mais le corps, tiens, votre corps, est-ce que vous vous plaisez dans votre appartement? Est-ce que vous avez, est-ce que vous veillez à ce que votre appartement soit confortable? Est-ce que c'est bien qu'un appartement soit confortable? Bien sûr, ne jouons pas les hypocrites. Hein. Le confort de notre corps dépend du lieu où nous habitons. Oui ou non? Le confort de notre âme dépend du lieu où elle habite. C'est exactement la même chose. C'est la raison pour laquelle le Seigneur utilise cette image. Tu as été pour nous un refuge. Ça ne parle pas du corps, là. Ça parle de notre âme. Et on peut faire ce parallèle entre le corps qui est à l'abri, comme là, vous n'êtes pas content quand l'été il fait super chaud, que vous rentrez, que vous êtes assis. Après tout, pourquoi on ne ferait pas les réunions debout? Comme celui qui prêche. Pourquoi on ne ferait pas les réunions? Est-ce qu'il y a des endroits où les réunions sont debout? Ben oui. Pourquoi? Parce qu'on veut du confort. Vous voyez, on a des chaises, c'est confortable, on a une ventilation, on a la climatisation ou le chauffage, etc. On fait attention à ce que quand même dans nos lieux de culte, il y ait un minimum de confort. D'accord? Et c'est vrai que c'est agréable. Et en parlant du confort de notre corps, on peut peut-être mieux comprendre ce que Dieu a à nous dire par rapport au refuge. Au refuge de l'âme, parce que le refuge, bien sûr, c'est le lieu où nous habitons. Tout à l'heure, j'espère que vous allez tous rentrer dans votre appartement, dans votre maison, dans votre studio, qu'importe. Mais votre confort, ce moment, vous n'appréciez pas de rentrer à la maison? On apprécie de rentrer à la maison. Mais le refuge spirituel, est-ce que c'est vraiment un refuge dans lequel nous habitons? Ou est-ce que c'est un lieu que nous visitons 5 minutes par semaine, ou 1 heure par semaine, le temps d'une réunion, ou le temps d'un culte personnel. Beaucoup de gens ne prennent pas soin de leur maison. Il y a des gens, est-ce que tout le monde prend soin de sa maison? Non, il y a des gens, non, il y a des gens, vous allez chez eux, vous n'avez même pas envie de vous asseoir. Moi, ça m'est arrivé d'aller chez des gens, de m'asseoir sur le bord de la chaise, vous voulez un café, monsieur Gaud? Non, pas, non, pas soif, pourtant, vous voulez un gâteau? Non, rien, je n'ai pas bougé, tellement c'était sale. Il y a des gens qui ne se rendent même pas compte de l'état de leur maison. Il n'y a pas de confort, il n'y a pas de propreté, mais c'est exactement spirituel. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte combien leur maison spirituelle n'est pas propre, combien leur cœur n'est pas propre. Et un chrétien, il doit, quand il dit « Tu es mon refuge, ma forteresse, mon libérateur », moi je ne sais pas, je crois que beaucoup de chrétiens devraient comprendre qu'il y a un vrai repos. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos, tout ça, le repos physique, c'est important. Vous aimez bien dormir? Vous voyez, le repos physique, le confort du corps, le confort matériel, les biens matériels, tout ça, ce sont des grâces. Oui ou non? Est-ce qu'il est écrit quelque part que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions? Est-ce que c'est écrit? Oui, donc ne soyons pas des hypocrites. Il y a, si la grâce de Dieu permet que nous ayons un confort matériel, c'est une bénédiction pour notre corps. C'est évident. Mais Notre âme, où habite-t-elle, notre âme? Ce soir, vous pouvez dire, oui, mais je suis dans l'église. Non, attendez. L'église, la lecture, la prière, chanter des cantiques ne font pas forcément que votre âme est en sécurité. Ça devrait. Par contre, ça devrait. Mais combien de chrétiens ressemblent justement à ces chrétiens dans le psaume 107? Si je ne me trompe pas, regardez avec moi. Dans le psaume 107, alors ce genre de texte qu'on vient de lire est régulier dans la parole, mais celui qu'on va lire maintenant est aussi régulier dans la Bible, dans le psaume 107, versets 4 et 5. Regardez ce qui se passe. Il est parlé des croyants, des Hébreux. Ça fait vraiment mal au cœur, mais c'est exactement ce qui se passe pour beaucoup de chrétiens. À la place d'entrer dans le confort spirituel, dans le repos spirituel, eh bien, lisons où ils sont. Psaume 107, verset 4. Ils erraient dans le désert. Tout à l'heure, on a pris le texte, vous vous rappelez l'introduction dans la prière, qu'est-ce qu'on a pris comme texte? Qui c'est qui était dans un désert? Agar. Agar, elle était dans un désert, voilà, elle était dans un désert, Dieu l'avait éprouvée avec son fils Ismaël, et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle errait dans le désert, elle était en train de mourir, pour ne pas voir son fils mourir, elle s'est éloignée d'une cinquantaine de mètres, et heureusement que le petit, il a crié à Dieu. Il a dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant, et que l'ange est venu, et il a dit à sa mère, écoute, mère, ouvre les yeux, et regarde. Et il y avait un puits, une source d'eau vive, qui les a désaltérés pour qu'ils puissent reprendre la marche. Et combien de chrétiens sont là, ils sont dans le désert, on va le lire, c'est pas la peine de le commenter. Psaume 107, verset 4, ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient, vous voyez, de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Rien que ces deux versets vous montrent dans quel état un chrétien peut se retrouver. Et dans l'église du Seigneur, c'est triste, mais je peux vous dire qu'il y a des chrétiens qui sont dans le même état. Tout le temps, ils languissent. Tout le temps, ils sont insatisfaits. Tout le temps, ils sont dans le désert. Je sais que Dieu permet le désert. Et je sais que Dieu permet des épreuves. Mais comme on l'a lu dans le psaume 91, il est avec nous dans la détresse. Dieu était avec Joseph dans la prison. Dieu était avec Jérémie quand il était dans la boue. Lisez ces textes où ces hommes de Dieu sont dans l'épreuve, mais Dieu est avec eux. Parce que ces hommes sont vraiment dans le refuge du Seigneur. Alors, comment êtes-vous vraiment ce soir? Est-ce que vous pouvez dire, mais oui, moi je suis, mon âme est en Dieu. Je suis dans le repos. C'est quand même dommage de voir la quantité de fois où Dieu s'applique. Parce qu'en plus, Dieu insiste avec amour, avec tendresse, avec sévérité, qu'importe. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme, il n'écoute rien. C'est écrit comme ça. Quelle tristesse que de voir que Dieu nous invite. Ce soir, Dieu nous invite. Dieu nous invite. Vous pouvez interpréter mon exhortation comme vous le voudrez. Dieu veut que vous ayez une entière espérance. Et cette espérance, nous ne pourrons l'avoir que si nous sommes véritablement réfugiés en Dieu. Tout à l'heure, je partageais avec un frère un verset qui nous servira d'introduction dimanche. Je ne savais pas si je devais le lire, mais on va le lire quand même. Il m'a interpellé. Vous voyez, ça fait 37 ans que je lis la Bible et je la lis. Je peux vous dire que je la lis. Et pourtant, ce verset m'a interpellé hier matin. J'étais en train de méditer dans Luc au chapitre 6. Et pourtant, c'est le sermon sur la montagne, je le connais franchement presque par cœur. Vous voyez comme quoi on a besoin de lire et de relire des centaines de fois. Et je lisais et je me suis vraiment arrêté sur cette affaire où Jésus parle de la façon dont on construit justement. Luc 6, verset 46. Regardez. Ce sont des textes, mes frères et sœurs, qu'il faut méditer. Et pourtant, vous voyez, moi, je les connais par cœur. Franchement, ce n'est pas par orgueil que je le dis, c'est la vérité. Mais regardez, vraiment hier matin, mon esprit a été attiré par ce que je vais vous dire. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Donc, il y a trois choses. Venir à Jésus, entendre mes paroles et les mettre en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, virgule, creusé profondément. Dans le premier texte sur le sermon sur la montagne, c'est juste celui qui a creusé. Mais là, le Saint-Esprit a voulu que nous comprenions bien que ce n'est pas une question de creuser, un tant soit peu, il faut creuser profondément. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des chrétiens qui creusent, ils creusent un peu, ils approfondissent un petit peu. Mais il y a des chrétiens qui ont vraiment le souci d'être profond avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens qui ont écrit ces psaumes, ces chrétiens comme David, comme Moïse, qui pouvaient exprimer au-delà de leurs épreuves le fait que leur âme était réfugiée en Dieu, il y a tous les autres qui n'ont pas pu, mais au contraire, comme on pouvait dire, ils erraient dans le désert. C'était des croyants, au même titre que Moïse et les autres. Mais ils n'avaient pas creusé profondément, ils n'avaient pas trouvé le repos. Parce que notre âme, si vous êtes chrétien, vous le savez, notre âme, elle est faite pour Dieu. Oui ou non? Notre âme, elle est faite pour Dieu. Donc, il n'y a qu'en Dieu, en Dieu seul, qu'on peut trouver le repos. Et nous le trouverons nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'il faut saisir ces textes et dire, mais est-ce que Jésus est mon rocher? Ma forteresse, pas épisodiquement, pas irrégulièrement, continuellement. Est-ce que Jésus est mon libérateur, comme on l'a lu dans le psaume, mon bouclier, la force qui me sauve, la haute retraite, mon refuge. Dans le psaume 27, ne le cherchez pas, verset 5, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. On l'a lu, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu les protèges, tu les mets à l'abri dans ta tente. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez, frère et sœur? Parce que ou c'est vrai ou c'est pas vrai. Ou le Seigneur nous a menti. Si quelqu'un remettait en question l'honnêteté du Seigneur, je peux vous dire qu'il va mal. Que vous remettiez en question l'honnêteté des hommes, je veux bien. Mais remettre en question la véracité de la parole, moi je trouve que c'est vraiment pas bien. Vous ne pouvez pas. Si vous le connaissez, vous savez très bien qu'il ne dit pas les choses comme ça. C'est dans le psaume 31, tout à l'heure, Nicolas a pris le psaume 32. On va lire dans le psaume 31. Regardez. Mais c'est, ça vaut la peine de prendre, vous voyez, que le livre des psaumes et de dire, tiens, qu'est-ce qui correspond au refuge? Quelles sont les conséquences du refuge? C'est comme ça que moi je fais, que j'étudie la Bible. Vous ne croyez pas que je suis meilleur que l'autre. C'est pas compliqué. Regardez, psaume 31. C'est quand même simple. Psaume 31, verset 21. Et je vous dis, je n'avais que l'embarras du choix pour étayer ce que je vous dis. Psaume 31, verset 21. Tu les protèges sous l'abri de ta face. C'est pas beau comme expression, hein? Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Parce que vous savez, on peut attaquer quelqu'un avec la langue. On peut lui faire beaucoup de mal avec la langue. Vous le savez? Et voyez, qu'est-ce que Dieu dit? Eh bien, qu'on est à l'abri. On est à l'abri. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuve. La preuve, c'est que dans le psaume 91, on l'a lu, « Je serai avec lui dans la détresse ». Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Des épreuves, il y en a. Des détresses, il y en a. Mais quand notre âme est à l'abri, elle est à l'abri de ces choses. Elle est préservée de ces choses. Les épreuves, on en a besoin de toute façon. On en a besoin parce qu'il faut grandir. Vous avez envie de grandir? Pas physiquement, parce que maintenant vous êtes de grands garçons et des grandes filles. Jusqu'à quel âge on grandit physiquement? 21? 20 ans, bon, il y en a qui s'arrêtent à 15 ans, il y en a qui s'arrêtent à 20 ans. Bon, on sait qu'il y a un moment où on serait de grandir, mais spirituellement, on doit toujours grandir. Il y a des gens, ils ont 30 ans de conversion, 50 ans de conversion, ils sont toujours des bébés. Toujours dans la médisance, toujours dans la critique. Ils n'ont fait aucun progrès. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le refuge. Ils vont à l'église, ils lisent la Bible. Je répète, ils lisent la Bible, ils chantent des cantiques par cœur, etc. Mais ils ne sont pas rentrés dans le refuge. Et le psaume 91 est un des meilleurs psaumes pour nous aider à comprendre ce que vraiment le refuge, la forteresse. Tiens, quelle est l'idée que vous faites d'une forteresse? Parce que tu es mon refuge et ma forteresse. Après tout, c'est comme ça qu'on avance. Un bâtiment en béton, une espèce de blocos, super sécurisé, mais pas confortable. Est-ce que c'est ça que le Seigneur explique là? Non. Regardez, je veux nous apprendre, parce que j'ai besoin aussi d'apprendre, à méditer. Regardez, vous y êtes dans le psaume 91? Regardez bien, il faut apprendre à méditer. Heureux l'homme qui médite. Ça s'apprend la méditation. Je prends un texte et je le lis, et je le relis, et je le re-relis, et etc., jusqu'à ce que je comprenne les liens qu'il y a entre le texte et le contexte, entre les versets et ceux qui précèdent. Psaume 91, verset 10. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Point. Verset 4. La forteresse, c'est quoi? Il te couvrira de ses plumes. Vous y êtes? Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Voilà ce qu'est la forteresse du Seigneur. La forteresse du Seigneur, comme le cœur d'une mère qui est comparable à une forteresse. Moi, j'ai lu des psaumes, des poèmes, vous savez que les enfants font des fois. Lucas, de temps en temps, il faisait des poèmes pour sa mère et il parlait du cœur d'Isabelle comme d'une forteresse. Et c'est biblique, ça. C'est vraiment biblique de comparer le cœur d'une mère à une forteresse. Mais ce n'est pas un blocos sécurisé à froid. C'est comparable à une poule qui protège ses poussins sous ses ailes. D'ailleurs, il n'y a pas un verset qui le dit? Est-ce qu'il y a un verset où Jésus dit, mais combien de fois? On voit bien que le Seigneur, il est attristé de voir que ses enfants sont passés à côté. Qu'est-ce qu'il dit? Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et la suite est catastrophique. Et vous ne l'avez pas voulu. Et combien de fois? Ça veut dire qu'à plusieurs reprises, le Seigneur les a interpellés, leur a dit exactement, enfin, mieux sur ce genre d'exhortation, et ils ne l'ont pas fait. Quand Ésaïe dit la même chose dans l'Ancien Testament, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et vous ne l'avez pas voulu. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Et oui, parce que notre âme, elle est faite pour Dieu. Et si nous essayons de trouver du bonheur dans le monde, notre âme sera dans le désert. Notre âme, je le répète, elle est faite pour Dieu. Il te couvrira de ses plumes. Ça, c'est quand même un beau, une belle image, oui ou non? Quelle belle image. Dieu dit, tu trouveras, j'ai pris ce verset, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et vous avez vu tous les versets qu'on a déjà cités, hein? On va prendre un autre, parce que quand même, c'est des choses qu'on pourrait faire, ça. Qu'on pourrait noter, vous voyez, dans un cahier, tiens, je vais prendre tous les textes qui imagent le refuge. Deutéronome 33, verset 27. Vous voyez, et c'est pas compliqué, avec une concordance, tout le monde peut le faire. Vous savez, moi, quand je suis rentré dans le ministère, on m'a offert une concordance, je sais même pas si j'aurais pu me l'acheter. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut payer pour acheter une concordance? Non. Vous allez sur Internet et vous tapez. Mais sur Internet, peut-être qu'on va lire autre chose. Deutéronome 33, 27. Regardez comment c'est clair et c'est lancinant dans le sens où Dieu revient sans cesse. Deutéronome 33, 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Alléluia. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras, c'est pas une belle image ça? Encore, vous voyez, les plumes, les bras, etc. Sous ses bras éternels est une retraite. Voyez, les ailes, le sein, les bras sont l'image de la forteresse, de notre forteresse dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ces choses? Sérieusement, je veux pas savoir si vous pensez si ma prédication vous plaît. Loin de là. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous pensez lorsque je vous dis, de la part du Seigneur, que sa forteresse bénit ce cœur de mère, comme une poule, voyez-le dit, le Seigneur qui nous portera sur les genoux, comme une mère console son fils. C'est écrit. Dieu se compare même à une mère, parce que le cœur d'une mère a plein d'affection pour son enfant. Qu'est-ce que ça nous fait? Ses ailes, le sein, les bras, les plumes, ça devrait quand même nous encourager. Nous voulons porter l'espérance. Vous l'avez chanté tout à l'heure? Comment? Il y a des chrétiens, ils ne portent pas l'espérance, ils portent la misère. À tel point que même, vous le savez, si j'exagère, levez la main. À tel point que même on a évité des chrétiens. Oui ou non? Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'éviter des chrétiens tellement ils sont fatigants? Je peux vous dire que s'ils avaient vécu ces choses, ils vous auraient pas fatigué. Ils auraient porté l'espérance. Et il y a des chrétiens que moi l'autre jour j'ai dit à une femme qui m'a appelé. Je lui ai dit. Elle m'a parlé. J'ai dit, au bout de 20 minutes, un quart d'heure, demi-heure, je ne sais rien. Je lui ai dit, je peux vous dire quelque chose? Vous parlez exactement comme les païens. Me faites penser exactement aux païens. Négatif, désagréable, je comprends pas pourquoi Dieu si, je comprends pas pourquoi Dieu fait pas ça, et je comprends. Je dis, vous parlez exactement comme les païens. Le problème, c'est que vous remettez en question son honnêteté. Et ça, je pense que ça amène pas la bénédiction dans une vie, ça. Quand on commence à parler ainsi, tu ne craindras ni les terreurs du jour, ni les terreurs de la nuit. C'est pas merveilleux, ça, de n'avoir aucune crainte? Alors vous avez dit, mais oui, mais quand même, on a des épreuves. Je parle pas du corps. De nos biens, nos corps, est-ce qu'ils nous appartiennent, en fait, nos corps? Ah oui, soyons tiens simples. Est-ce que nos corps nous appartiennent? Eh non. Est-ce que nos biens nous appartiennent? Après tout, si quelqu'un a 10 maisons, après tout, moi, ça ne me gêne pas. Mais qu'on le veuille ou non, tout ce que l'on a, nos biens, ou notre corps, ne nous appartient pas. Est-ce que Dieu peut me reprendre dans la minute qui suit? Pourquoi? Parce que mon corps ne m'appartient pas. Mais mon âme, Dieu me l'a donnée. Que vous comprenez? Et mon âme, elle peut être réfugiée. Même s'il y a des terreurs, même s'il y a des difficultés, si mon âme est à l'abri, je suis à l'abri de toutes ces choses. Ce qui est important, c'est de protéger son âme. C'est important, mes frères et sœurs. Et je ne sais pas si les gens le comprennent. Les gens ont du mal à le comprendre parce que les gens sont mal convertis, sont mal repentis. Les gens sont pas nés de nouveau. Et on le voit de plus en plus. Moi, je vous le dis, je suis bien placé pour le savoir. Il y a des chrétiens, ils ne sont pas nés de nouveau. Et c'est pour cela qu'il faut creuser et creuser profondément. Vous êtes d'accord avec cette parole de Jésus où vous contentez juste de petites réunions par-ci, par-là, d'un petit psaume de temps en temps? Non, il faut creuser, on l'a lu, on le verra dimanche, parce qu'avec des choses super simples. Creuser profondément. Et notre problème, il est là, nous n'avons pas le respect de ces choses. On a peur. Les gens, ils ont peur du lendemain. Ils ont peur. Et les gens, ils vivent, ils ont peur. Alors que le Seigneur a dit, mais n'ayez pas peur. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Et les gens sont, oui, mais s'il m'arrive ça, et si, quand je serai à la retraite, et si, et supposons qu'il m'arrive ceci, et supposons qu'il m'arrive cela. Mais la vie, elle n'est pas faite de suppositions. Nous devrions dire, le Seigneur est ma haute retraite. Est-ce que quelqu'un ce soir veut glorifier le Seigneur et dire, oh oui Seigneur, après tout, si tu permets une épreuve, eh bien, tu la permettras. Mais quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'opposition, l'adversité, tu seras mon refuge. Et je peux vous dire que si le Seigneur est votre autre retraite, les suppositions disparaîtront. On n'a pas à vivre de suppositions, on doit vivre dans le repos du Seigneur. David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi ? Car tu es avec moi. C'est ça, il n'est pas dans la supposition, il sait que le Seigneur est avec lui. Alors la question que je pose, je la pose la question, est-ce que nous sommes dans ce refuge ? Voilà, il faut la poser la question, oui ou non ? Est-ce que je suis dans ce refuge ? Ce soir, parce qu'après tout, il faut que ce soit super pratique, on va arrêter dans quelques minutes. Il faut que nous puissions quand même, devant Dieu, avoir cette honnêteté. Est-ce que votre corps est dans la petite église 9 rue Saint-Guilhem ? Où il est votre corps ? Bon, il est là, d'accord ? Vous savez l'adresse de l'église ? Votre corps est là. S'il pleut dehors, s'il neige, s'il fait chaud, est-ce que vous êtes à l'abri de tout ça ? Oui, parce que vous êtes à l'intérieur de ce refuge. Mais votre âme, où est-elle votre âme ? Il faudrait que nous puissions répondre. Si vous avez accepté Jésus comme sauveur, si vous l'avez accepté que comme sauveur, ça ne tient pas. Mais si vous avez accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, vous avez droit à ce refuge. Parce que le refuge, est-ce que tout le monde a droit à ce refuge ? Est-ce que les pécheurs sont sous ce refuge ? Eh non. Ils y ont droit s'ils acceptent Jésus. Donc si vous n'êtes pas converti, si vous n'êtes pas passé par la repentance, si vous ne croyez pas au sang de Jésus-Christ, c'est clair que vous ne serez jamais dans ce refuge. Vous serez peut-être dans la religion, une espèce de refuge en carton, je veux bien. Mais vous ne serez jamais sous cette forteresse. Mais si vous êtes chrétien, si vraiment vous avez accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur, nous devons entrer. De la même manière que quand on achète une maison, il vient un moment donné où qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut y aménager. Oui ou non ? Quelqu'un qui achète une maison, il ne va pas rester devant la maison pendant 7 ou 8 ans en disant « elle est belle cette maison ». Vous vous rendez compte, quelqu'un qui construirait une maison et qui n'y aménagerait jamais, qui resterait dehors dans la tente. Vous savez ? Qu'est-ce que vous diriez ? Vous diriez « écoute, tu peux y aller, rentre, oui, mais tu sais, je suis habitué dans ma tente ». Mais je ne sais pas si... Non, mais on rit, parce que la façon dont je vous le dis, ça vous fait sourire. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui se passe spirituellement ? Qu'il y a des gens qui sont tout le temps en dehors de la maison ? Le corps va rentrer dans cette maison que je me suis achetée, que je loue. Mais enfin, bon, j'achète une maison, j'y pénètre. Et c'est pareil spirituellement. J'ai accepté Jésus-Christ, j'entre dans ce refuge. Il est mon refuge. Il est ma forteresse, il est mon libérateur, il n'y a pas de tergiversation et des suppositions. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord Gérard, on est d'accord avec ta façon de présenter, rentrer, qu'un corps rentre dans une maison, on comprend l'image. Mais l'âme, comment c'est l'image ? Eh bien c'est par la foi, vous le savez, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le juste, il vivra par la foi, il faut le croire. Où que vous soyez, quel que soit le lieu où vous êtes, vous pouvez dire, mon âme, elle est dans Dieu. Je suis dans le refuge de Dieu. Je dois croire ce que je lis. Je dois le croire et le vivre. Est-ce que là, ce soir, vous pouvez dire, mais oui, mon âme est dans le repos. On le voit vite quand même, quand quelqu'un est dans le repos. Mes frères et sœurs, nos pensées, je comprends pourquoi Jésus a dit, pourquoi Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée. Parce que nos pensées, il faut vraiment les contrôler. Comme dit Paul aux Corinthiens, je crois, nous amenons nos pensées captives à l'obéissance. Vous voyez, c'est ça. au niveau pratique, quand Paul dit, mais ayez une entière espérance, vous allez me dire, parce que ça, ça fait partie des commandements intérieurs. Il y a les commandements extérieurs, j'en ai déjà parlé en son temps. Les commandements extérieurs, c'est-à-dire, tu ne voleras pas. Alors c'est sûr que s'il y a 100 euros là, sur la table, surtout pour peu qu'il y ait du monde, je ne vais pas les prendre, parce que ça se voit. C'est extérieur à mon corps. Mais il y a plein de commandements intérieurs. Quand Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, ça n'a rien à voir avec l'extérieur du corps, ça a à voir avec l'intérieur. Est-ce que vous me suivez? Et qui sommes-nous pour transgresser les commandements intérieurs? Quand Dieu dit que votre cœur ne se trouble pas, il n'y a que Dieu qui le voit. Parce que je peux vous dire, vous pouvez me dire, est-ce que vous avez la paix? Oui, j'ai la paix. Le Seigneur est un Dieu de paix. Attendez. Est-ce que tu as la paix vraiment? Mais recherche-la. Est-ce que c'est écrit rechercher la paix? Mais si je l'ai perdue, je l'ai perdue parce que j'ai été minable, parce que j'ai été grossier, je l'ai perdue. Il y a des chrétiens, l'autre jour me disait, un chrétien qui était grossier. Un chrétien qui est grossier, c'est quelqu'un qui est plus que charnel. Si vous avez la paix en étant grossier, venez me donner votre témoignage, je serai très intéressé. Venez me voir. Ça m'intéresse. Il y a des cas qui sont très intéressants. Si vous me dites que vous êtes heureux parce que vous méprisez les gens, venez me voir, ça m'intéresse. Votre témoignage, vous devez avoir une conscience extrêmement, extrêmement claire. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est par la foi. La foi, ça maîtrise les pensées. Seigneur, tu es mon refuge. Que je sois jeune, que je sois vieux, que je sois malade, que je sois en bonne santé, que je sois dans la bénédiction, que je sois dans l'épreuve, que je sois à l'hôpital, que je sois en vacances, que je sois dans un hôtel 5 étoiles, ou que je sois à l'hôpital, aux urgences, en train de souffrir, Seigneur, tu es mon refuge. Tu es mon refuge. Mon âme se réfugie dans la présence de Dieu. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. L'inquiétude et la paix ne peuvent pas cohabiter. C'est l'un ou l'autre. Ou mon corps, il est dans l'église, ou il est dehors. Mon âme, c'est pareil. Ou elle est en Dieu, ou elle n'y est pas. Si je suis dans la paix, c'est que mon âme est dans le refuge. Si je suis dans l'inquiétude, c'est que mon âme, elle n'y est pas. Alors je sais qu'il y a des combats. Et il y a des jours difficiles. Mais mes frères et sœurs, les inconvertis, nous, on est malheureux pour les inconvertis. Qui se convertissent pas, non? Alors je parlais tout à l'heure des chrétiens qui scandalisent. Leurs enfants qui scandalisent les pécheurs, leurs voisins, etc. Bon, là, c'est sûr que c'est... Là, ils ne sont pas dans le refuge. Ça, c'est sûr. Mais mes frères et sœurs, je pense qu'un chrétien, puisque nous sommes dans la maison de Dieu et que nous aspirons à devenir de meilleurs croyants, je crois qu'un chrétien, quand même, il aspire à communiquer l'espérance. À quoi ça sert de chanter « Nous voulons porter l'espérance » si on ne l'a pas? Et l'honnêteté, c'est de dire « Mais Seigneur, moi, j'ai envie d'être un bon témoin. Je ne sais pas combien de gens se convertiront par ma vie, mais au moins que j'ai la joie d'avoir rendu un bon témoignage. Oui ou non? Parce qu'après tout, on ne convertit pas les gens. Oui ou non? Est-ce qu'on peut convertir les gens? Est-ce qu'on peut rendre un bon témoignage? Oui. Et c'est ça qui devrait nous préoccuper, franchement. Vous savez, je termine avec cette pensée, parce que quand même quelqu'un l'a dit dans la prière tout à l'heure, que les cheveux de notre tête étaient tous comptés. C'est qui? Je ne vous dis pas. Jonathan, je ne dis pas que c'est toi. Bon. Il a rappelé ce verset. Jésus l'a dit, que pas un oiseau ne tombait sans qu'il ne le veuille. Pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi Jésus a dit que pas un moineau tombait sans qu'il ne le veuille? Ça veut dire qu'il contrôle tout. Alléluia. Dieu contrôle tout. Il est... Alors, s'il prend soin des oiseaux... Je veux dire, bon, un oiseau, c'est pas grand-chose, un oiseau. Même si c'est beau, parce que Dieu a créé, ça a pas d'esprit. Et vous avez jamais vu un oiseau en train de prier. Mais s'il prend soin des oiseaux, à combien plus forte raison, il prend soin de ses enfants. Et je voudrais que nous puissions lui dire, Seigneur, mais j'ai honte. C'est vrai que des fois, je commets des erreurs. C'est pas bien. Mais vous savez, la plus grande des erreurs, peut-être un des plus grands péchés, c'est de ne pas lui faire confiance. Moi, je serais malheureux, voyez, si un de mes enfants me disait « Papa, j'ai pas confiance en toi. » Je serais malheureux. Je préfère qu'un de mes enfants fasse une bêtise de temps en temps. Il n'y en a aucun là ce soir, non, ça. Que d'entendre un jour un de mes filles me dire « Papa, j'ai jamais eu confiance en toi. » Et c'est vrai qu'on commet des erreurs tous, on en commet. Celui qui n'a pas péché est un menteur. Mais quand même, je crois que Dieu voit lorsque quelqu'un commet une erreur et qu'il la répare, et quelqu'un qui ne lui fait jamais confiance. Et je crois que je comprends pourquoi il est dit qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Mes frères et sœurs, puissions-nous sortir du refuge matériel, mais rester dans ce refuge spirituel. Dans votre voiture, tout à l'heure, je ne sais pas moi, sur la rocade, en ville, dans votre lit, n'importe où, que vous puissiez dire, oh, Seigneur, tu es mon refuge. Mon âme est à l'abri, je n'ai pas supposé qu'il va m'arriver ceci, qu'il va arriver ça à mes gosses, j'ai pas, et qui sait qui va passer aux élections, monsieur Gou, j'ai peur. Écoutez-moi, n'ayez pas peur du lendemain. Que votre âme soit réfugiée en Dieu. Vous entendez? Ayez une entière espérance. Un chrétien, il travaille à cela. Gloire à Dieu. On demande au Seigneur son aide. Est-ce que Dieu pourrait nous aider? Vous êtes sûr? Mais bien sûr qu'il va nous aider. Vous savez, tout ce qui contribuera à ce que son nom soit glorifié recevra son aide. Ne vivez pas avec des suppositions, n'ayez pas peur du lendemain. Faites-lui confiance, que nous puissions ressembler à Moïse, à David, qui pouvait dire oui, l'Éternel est mon rocher. Demandons-lui son aide, demandons-la lui. Notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Pardonne, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas suffisamment creusé et où notre maison a été vacillante. Nous croyons, oui, que tu es vraiment notre forteresse, comme une poule qui protège ses poussins. Tu nous protèges sous tes ailes. Nous sommes à l'abri, notre âme est à l'abri. Oui, nous le savons qu'à cause de Golgotha, grâce au calvaire, nous pouvons entrer dans ce refuge, tu nous y acceptes, tu nous y aimes. Seigneur, merci. Que tous ces frères et sœurs qui ont écouté ce soir ta parole puissent, moi le premier, creuser profondément dans les conseils, les commandements de ta parole afin que nos pensées soient captives à l'obéissance. Oui, Jésus, nous te remercions pour la nombre incalculable de fois où dans ton saint livre, tu nous encourages, tu nous invites, tu nous exhortes et tu nous presses à ce que tu sois à notre refuge et notre repos. Tu l'as promis aux hommes que ceux qui recevraient tes instructions trouveraient le repos. Merci Jésus pour ton repos et que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.